Les coqs chantent et jour paraît, tous et debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Alors moi, ça s'est passé en Guinée. Je suis née dans une grande famille guinéenne. Mon père a 4 femmes, plus de 30 enfants. Donc à l'âge de 8 ans, j'étais excisée comme toutes les petites filles de mon village. Et c'est douleur parce que le jour qu'on est excisé, le cri qu'on pousse ce jour-là, c'est un cri qu'on ne peut jamais oublier. Ensuite, à l'âge de 13 ans et demi, un homme est venu voir mon père. Et moi, j'ai passé, il était assis sur un escalier. Il a dit, je vais te marier. J'avais 13 ans et demi.
Le coq chante ne pouvait ignorer un thème central qui traverse toutes les sociétés humaines, les droits des femmes. Nous allons donc parler de la polygamie, de l'excision, des mariages précoces, des mariages forcés et de toutes ces pratiques sociales qui empêchent un réel épanouissement des femmes dans de nombreux pays et sur tous les continents. Cette année marque le 20e anniversaire de la déclaration de Bamako. C'est le premier texte dont s'est dotée la francophonie dans le domaine de la démocratie et des droits de l'homme. Et pour célébrer ce 20e anniversaire, l'Organisation internationale de la francophonie a initié un cycle de conversations francophones pour échanger sur des questions relatives aux droits de l'homme, aux libertés fondamentales et à la démocratie. La troisième et dernière conversation de ce cycle avait pour thème « Lutter contre les mariages précoces et les mariages forcés dans l'espace francophone ». Parmi les intervenants de ce troisième cycle, Madame Diarra Touba, c'est une personne d'un courage exemplaire qui vous raconte des choses graves avec le sourire. C'est à son domicile dans la banlieue parisienne qu'elle nous a reçus.
Désolé, monsieur. T'es avec ma sœur en Guinée, là,
J'ai regardé, mais j'ai pas vu de calebasse.
Ah, calebasse, non, j'en ai pas. Moi, je vais mettre mon masque, c'est ça que je vais mettre mon masque aussi.
Ça, vous êtes obligé.
Excusez-moi.
Monsieur. Mais pourquoi? Asseyez-vous.
Je me debout, il n'y a pas de souci. Parce que lui, si je m'assois, il va pleurer et après, ça va s'entendre.
Eh ben non, moi, je me mets debout, alors, parce qu'on va pas faire tout un entretien. Moi, je suis assis, vous êtes debout. Tu vas pleurer? Ben non, tu ne vas pas pleurer.
Oui, bonjour, je suis Diarra Touba. Je suis âgée de 35 ans. Je milite dans le monde associatif, ça fait bientôt 15 ans.
Alors, moi, je suis venu vous voir pour vous parler de choses désagréables, très, très désagréables pour les femmes, les mariages forcés et mariages précoces. Pour vous, comment ça s'est passé?
Alors moi, ça s'est passé en Guinée. Je suis née dans une grande famille guinéenne. Mon père a 4 femmes, plus de 30 enfants. De 2 ans à 10 ans, c'est ma grand-mère qui m'a élevée dans un village très perdu de la Guinée. Dans le village à Télimilé, à Boé. Et comme je dis souvent, de 2 ans à 10 ans, j'ai vraiment la chance jusqu'à l'âge de 8 ans. Ma grand-mère, c'était une femme très géniale, formidable, qui ne m'a jamais tapé, qui ne m'a jamais fait du mal. Et le peu qu'elle avait, elle a toujours su partager avec moi et les autres.
Une grand-mère africaine, quoi.
Une bonne grand-mère africaine. Donc, à l'âge de 8 ans, j'étais excisée, comme toutes les petites filles de mon village. Mais personne ne m'avait expliqué c'était quoi. Je savais juste que j'allais passer par là, parce que tous mes voisines, toutes mes copines ont déjà passé par là. Donc, on m'a dit juste d'accompagner une femme et ensuite, ça s'est passé comme ça se passe coutumièrement.
Le problème, c'est que ceux qui ont fait ça pensaient agir pour votre bien.
Exactement, pour eux, ils font du bien parce que c'est une tradition qui date depuis longtemps chez nous. Donc, ça fait partie de nos quotidiens. Moi, à l'époque, j'étais contente parce que je me disais, je suis comme mes copines, comme mes voisines. Ensuite, malheureusement, je perds ma grand-mère à l'âge de 10 ans. C'est des guêpes qui l'ont piquée dans la nature. J'étais avec elle, c'est moi qui étais plus piquée, mais malheureusement, celle qui est décédée. Suite à son décès, j'ai retourné dans cette grande famille à Conakry où je n'avais pas forcément ma place parce que je ne les connaissais pas. Donc, il a fallu qu'on me fasse rentrer à l'école à l'âge de 10 ans et demi, 11 ans. Déjà, là, c'était compliqué parce que j'étais plus âgée que les enfants. On se moquait souvent de moi. On me disait, ah oui, tu vas aller t'occuper des enfants à l'école. parce que voilà, la première année, j'étais toujours plus âgée que tous les enfants à l'école.
Voilà donc une affaire qui commence mal. On est excisé sans comprendre, on perd une grand-mère protectrice, il faut se faire une place dans une famille de 30 enfants et dans une ville qu'on ne connaît pas, et tout cela à l'âge de 8 ans. La suite ne laisse pas le temps de reprendre son souffle.
Ensuite, à l'âge de 13 ans et demi, un homme est venu voir mon père pour le remercier parce qu'il aurait rendu service pour son papa qui était parti à la Mecque et venu chez nous. Et moi, j'ai passé, il était assis sur un escalier, il a dit « je vais te marier ». Et j'ai dit « c'est pas moi qui sais, c'est mes parents qui sait ». Parce que ce qu'on dit chez nous, quand on veut épouser une personne, il dit « va voir les parents, c'est pas à moi, tu dois parler de ça ».
Et vous aviez quel âge ?
J'avais 13 ans et demi. Donc cet homme a parlé à ma mère, il a beaucoup expliqué ma mère qui il était, comment il était en Europe. Il a convaincu d'abord ma mère.
Ah, c'est quelqu'un qui vivait en Europe ?
Oui. Donc, il a convaincu ma mère et ma mère a parlé avec moi en me disant « S'il te demande qu'il veut te marier, il faut que tu acceptes parce que tu vois, tu vas bientôt avoir 14 ans. Nous, on a peur que les filles tombent enceintes vite. » Donc, elle pensait aussi de bien parce que par rapport aux traditions qu'on lui a transmises, l'éducation qu'elle a su, elle-même, elle était mariée très tôt par mon père, etc. Donc, en fait, toute une chaîne, quoi. Ce que la grand-mère a vécu, c'est ce que la fille vit. Ce que la fille vit, c'est ce que ses enfants vont vivre plus tard.
C'est-à-dire que, en fait, Madame Bach, je veux comprendre, c'est-à-dire que pour une mère, et si elle n'a pas marié sa fille, c'est une honte. Si la fille fait un enfant à la maison, pour le père, c'est une honte.
Exactement. L'honneur, qu'est-ce qu'il dira les gens? Du coup, toute une pression, en fait.
C'est-à-dire que, par exemple, jeune fille, la famille subit une pression sociale autour de, des jeunes filles. Mmh. Et vous, vous subissez la pression de la famille.
Exactement, c'est ça, en fait. Et donc, le mariage religieux a eu lieu sans qu'il soit là. Donc, au bout de 7-8 mois, je le rejoins en Hollande.
Et vous, on vous a dit quelque chose? On a fait le mariage, est-ce qu'on vous a dit quelque chose?
Moi, on ne m'a rien dit, on ne m'a rien demandé. Juste par rapport à ma mère, elle me disait juste si on me demandait, il fallait que je dise oui. Que je ne dise pas que je ne veux pas cet homme, c'est tout. Mais ils ne m'ont rien dit, rien préparé, rien du tout. Donc au bout de 8 mois, je le rejoins en Hollande et tout. Ils continuaient d'appeler ma famille. Donc quand j'ai passé par le Mali, j'ai obtenu le visa, mes papiers étaient falsifiés. Dans mes papiers, j'avais 25 ans, alors qu'en réalité, je venais d'avoir mes 14 ans. Et donc ensuite, quand je suis arrivée en Hollande, voilà, là, c'est les découvertes. Tout ce qui est intimité, c'est tellement tabou. Que je découvre tout en venant en Hollande, quoi. Donc, avec lui, j'ai perdu 3 grossesses dans des conditions très difficiles. Tout ce qui est contraception, tout ça, je ne savais pas. Et lui, il passait par mon cousin quand j'allais à l'hôpital. Il ne pouvait pas dire que j'étais sa femme parce qu'il était marié là-bas en Hollande avec une femme qu'il n'avait pas divorcée. Il avait d'autres femmes en Guinée. Du coup, voilà, je vivais vraiment dans la clandestinité, pas pouvoir me soigner correctement. Si j'ai allé à l'hôpital, c'est lui qui payait, donc ça coûtait cher. Enfin, vraiment, toutes les difficultés, quand on arrive dans un pays, on ne parle pas la langue, on n'a pas de famille, on n'a pas de papier, on n'a personne. Et surtout à cet âge-là, on a besoin d'une éducation, on se retrouve livré à nous-mêmes.
Voyons la situation de cette femme. On a déjà menti aux administrations sur son âge réel. Son mari ayant épousé une autre femme auparavant, ne pouvait pas déclarer sa présence en Europe au niveau des autorités. Ajoutons que l'Africain qui débarque en Europe pour la première fois doit faire l'expérience de la solitude et du chacun pour soi.
Toute seule, parce qu'à l'époque, en plus, il n'y a pas d'Internet. Pour appeler en Afrique, il fallait aller dans les cabines téléphoniques. Des fois, les réseaux n'étaient pas bons. Je ne pouvais pas composer un numéro. Je ne savais même pas lire, ni écrire, ni parler la langue. C'était vraiment, vraiment difficile. Et donc, au bout de 2 ans et demi, on est venu ici en France, au Lila, dans les 93. Il avait trouvé un appartement. Il avait sous-loué un studio où il n'y avait pas de l'eau chaude, il n'y avait pas de chauffage. C'était vraiment complètement difficile. Et où j'ai survécu. J'avais pris 140 kilos à l'époque. J'étais à 140 kilos parce que les opérations, les pertes de grossesse, les médicaments qu'on m'a donnés, c'était pour quelqu'un qui avait 25, 26 ans, alors que j'avais 16, 17 ans, vous voyez. Donc, tout a déréglé les hormones et je me suis retrouvée en surpoids. Donc, j'ai survécu en fait. La nuit, je mangeais, je ne me lavais pas des fois, je ne sortais pas dehors. Et la journée, je dormais.
Même quand on a été à l'école, quand on débarque en Europe, on ne connaît rien des coutumes européennes, on ne connaît rien de la façon de vivre. Comment vous avez fait?
En fait, quand on ne prend pas conscience de ce qu'on vit, c'est difficile d'avoir un déclic et d'avoir la force et le courage de sortir de ça. Jusqu'à un soir où j'ai vu une émission de télé où j'ai vu des femmes, en fait, qui racontaient leur histoire, comment elles se sont reconstruites, notamment une femme d'origine marocaine qui expliquait qu'elle était mariée à l'âge de 15 ans aussi, comme moi, et qui a pu partir ici, qui a été aidée par les services sociaux, les assistantes sociales, tout ça. Et comme je ne savais ni lire ni écrire, j'ai écrit sur un bout de papier à S, et le lendemain, je suis allée à la mairie grâce à ma voisine qui m'a dit, voilà la mairie. Alors, tous les jours, je passais devant.
Non, vous saviez même pas ce que c'était qu'une mairie, vous passiez devant.
Oui, je passais devant. En fait, c'est comme si j'étais en Guinée, mais en France.
Alors, vous êtes allée à la mairie?
Je suis allée à la mairie et j'ai vu une dame qui était très gentille. J'ai dit, je cherche à S. Elle a dit, mais il y a beaucoup de lettres qui commencent par S, des associations, des choses comme ça. Et quand elle m'a dit assistant social, j'ai dit, oui, c'est ce que j'ai cherché. Donc ensuite, elle m'a aidé à appeler, elle a insisté pour qu'on me prenne. Et dit qu'on m'a pris et j'ai expliqué un peu mon histoire comme ce que je vous ai résumé depuis tout à l'heure. Et l'assistante sociale, elle a dit, amenez un acte de naissance qui prouve que vous avez 17 ans. À l'époque, j'avais 17 ans, j'allais avoir mes 18 ans. Elle a dit ensuite, nous, on fera ce qu'on peut pour vous aider. Donc, je suis sortie là-bas avec beaucoup de soulagement. Elle m'avait dit que ça n'allait pas être facile comme parcours. Et à partir de là, en fait, j'ai dit que j'allais partir. Donc, comme l'assistante sociale m'avait expliqué, il y avait un numéro vert qu'il fallait appeler pour trouver un hébergement. Du coup, voilà, j'ai allé dans une cabine téléphonique. Ces jours-là, je n'ai pas pu avoir les 115, j'ai dormi là-bas. J'ai dit à mon oncle, je préfère être livrée à moi-même d'être avec quelqu'un. Je voulais vraiment être indépendante et libre. Donc après, voilà, pendant 6 mois, ce n'était pas facile. L'endroit où je me lavais, où je mangeais, où je dormais, c'était différent. Des fois, je dormais dans le métro parce que l'adresse, je ne le trouvais pas. Quand j'appelais les 115, il fallait que quelqu'un m'écrit l'adresse. Enfin, en 2005, donc j'ai obtenu mes papiers. En 2006, je signe un contrat avec Aide sociale enfance. De mes 18 à mes 21 ans qui m'ont permis de me poser dans une chambre d'un foyer jeune travailleur à Ménilmontant et de commencer à apprendre ABCD comme les enfants, à apprendre à lire et écrire et aussi voir des gynécologues, des psychologues, un long parcours de reconstruction et prendre des distances avec tout ce qui m'est arrivé en fait.
Quand vous parlez de reconstruction, qu'est-ce que je dois comprendre, moi?
On se reconstruit, en fait, en disant, ah oui, mais ce qui m'est arrivé, c'est ce qui est arrivé à ma grand-mère, c'est ce qui est arrivé à ma mère, c'est ce qui arrive aussi peut-être à mes sœurs et pourquoi pas peut-être mes enfants. Et pour arrêter ça, il faut que je sois dans l'engagement. Voilà, on m'a aidé à écrire un livre, témoignage, qui s'appelle « On m'a volé mon enfance », qui est sorti en 2006. Suite à ce livre-là, je me suis dit, il ne fallait pas arrêter à mon histoire. Et ensuite, j'ai créé une association qui s'appelle Espoir et Combat des Femmes. Donc, c'est comme ça que j'ai rentré dans le monde associatif. Mon identité, c'est ma famille. Donc, la seule chose que j'avais à faire, c'est de comprendre qu'eux-mêmes, ils ont voulu faire du bien et j'ai vécu le mal. Et qu'eux, ils sont convaincus que certaines traditions et coutumes, c'est les meilleures. Donc, j'ai compris que là-dedans, il fallait que je défais le nez. Ça veut dire qu'il fallait que je dise ça, c'est bien. Je vais continuer. Ça, c'est pas bien. Moi, je sais aujourd'hui, exciser une petite fille à l'âge de 8 ans, quel que soit son âge, c'est pas bon. Il faut arrêter l'excision. Je sais que les mariages précoces, quelles que soient les formes qu'elles sont faites, arrangées ou forcées, à l'âge de 14, 15, 16, jusqu'à 18 ans, pour moi, une petite fille, une jeune femme, elle doit pas être mariée. Voilà. Elle doit être formée elle doit être éduquée. L'éducation pour être armée face à la vie. Et le message que je passe aux femmes, aux jeunes filles, c'est de dire que la haine, elle détruit en fait. Trouvez quelque chose pour donner sens à votre vie. Donc j'ai envie de dire aussi aux parents, dans ce qu'on a hérité, il y a des bonnes choses. Ces bonnes choses-là, c'est le partage, c'est la générosité, c'est entraide entre nous. Il y a des valeurs africaines qu'il faut avoir la fierté de les conserver. Mais en même temps, il faut qu'on invente notre propre modèle, notre propre vie. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse des tri de ceux qui ne sont pas bien.
Ce que vous appelez défaire le nœud.
Voilà, défaire le nœud. Marier une petite fille, quelle que soit la forme, c'est pas bon. Remplaçons tout ça par l'éducation.
Cette évolution souhaitée par Madame Ba passe aussi par l'éducation des garçons. Parce qu'on oublie souvent de le dire, mais dans le mariage forcé, le plus souvent, on ne demande pas son avis aux garçons. Personne ne parle de sexualité à un garçon avant sa première nuit de noces. L'éducation traditionnelle met une grosse charge sur les épaules des garçons, car ils doivent être des hommes, de vrais hommes. Et surtout porter haut l'honneur de la famille, c'est-à-dire ne jamais céder. Que l'on ait tort ou raison, ne jamais céder. Ce qui ne simplifie pas les choses.
Ma mère, par exemple, moi, je vis qu'elle faisait la différence entre les garçons et les filles. Donc, c'est dire aussi, les mamans, elles ont un rôle important dans le changement des mentalités. On a besoin des hommes pour faire avancer les mentalités. C'est comme la polygamie. Tout le monde vous dit, l'homme a droit à 4 femmes, mais personne ne va vous dire comment il faut tenir ces 4 femmes. Qui a un cœur pour aimer une femme de la même façon ou les traiter de la même manière?
Madame Ba, j'ai une dernière question. Moi, j'ai parcouru beaucoup de pays, notamment le vôtre, la Guinée. C'est des choses dont les femmes ne parlent pas. Tout ce qui touche à la sexualité, elles n'en parlent pas. Comment vous avez eu le courage de franchir le pas?
Il ne faut pas que mes enfants, ils héritent ça. Il ne faut pas que ma fille, par exemple, elle soit mariée tôt ou forcée ou arrangée. Il faudra que je la arme. Je ne dis pas qu'elle n'aura pas de difficultés parce que le destin, elle ne me appartient pas. Mais moi, je ferai en sorte, en tout cas, qu'elle a une vie beaucoup plus épanouie de la mienne et surtout qu'elle a le mot de choisir. Parce que nous, le mot n'existe pas, tu as le droit de choisir. Tout ce qui tourne autour de nous, c'est qu'est-ce qui dira les voisins, c'est l'honneur de la famille, c'est ta tante, elle va parler, ta grand-mère va parler, l'autre va parler. Du coup, on vit pour les autres, on ne vit pas pour nous. Et je pense que là-dedans, ça, il faudra aussi qu'on le corrige au fur et à mesure.
Je vous dis merci.
Oui, je vous en prie.
On voit que le chemin qui reste à faire pour l'épanouissement des femmes dans le monde est long. Et cela concerne toutes les sociétés, tous les milieux culturels, tous les continents et tous les pays. Chacun a des degrés divers. Et la difficulté principale, c'est qu'on a fait de simples problèmes de santé publique des questions taboues. En parler revient donc à critiquer ou même offenser une culture ou une religion. Il faudra bien qu'un jour ou l'autre, les sociétés humaines trouvent le moyen de dépasser ces difficultés qui sont totalement artificielles. Il nous faut construire ou reconstruire les femmes par l'éducation pour que chaque couple puisse marcher sur ses 2 pieds. Parce qu'il faut savoir que chaque année, 12 millions de filles sont mariées avant 18 ans dans le monde, soit 1 fille sur 5 selon l'ONG Plan International. En Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, plus de 4 jeunes femmes sur 10 se sont mariées avant leur 18e année. Nous étions aujourd'hui en compagnie de Madame Diarra Touba, féministe, militante associative, fondatrice de l'association Espoir et Combat des Femmes. À travers son cas personnel, elle nous expliquait son combat contre les mariages précoces et les mariages forcés. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Piedel, au micro Sayouba Traoré. Pour retrouver cette émission RFI.fr, pour nous écrire le coqchante@RFI.fr et vous pouvez également consulter notre page Facebook Le Coq Chante. Enfin, si vous aimez cette émission Le Coq Chante, on vous conseille de vous y abonner en recherchant Le Coq Chante dans votre application favorite de podcast. Et si vous voulez nous encourager, mettez-nous 5 étoiles et laissez-nous un commentaire. Thank you.
7 milliards de